les rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h, les rendez-vous de l'économie du territoire.
Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce rendez-vous de l'économie du territoire. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Grégory Verdez. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-gérant de la société Trédip qui est basée dans le Cher à la Guerche-sur-le-Bois. C'est bien ça. Bien, je vais vous laisser, Grégory, commencer par la présentation de cette entreprise que nos auditeurs ne connaissent peut-être pas.
Donc tout d'abord, Trédip est une entreprise familiale créée en 1998 par mon papa.
D'accord.
Entreprise que j'ai intégrée dès sa création, puisque je suis une personne rattachée au monde technique à l'origine.
D'accord.
Donc aujourd'hui, je dirige la société avec ma sœur jumelle.
D'accord. Ah, il y a des chemins de vie, ça, il faudra qu'on en parle dans la troisième partie. Il y a des chemins de vie comme ça.
Ouais.
Quelle est l'activité de la société Trédip ?
Donc Trédip est spécialisée dans le recyclage d'un déchet qu'on génère tous. C'est-à-dire le refus de pulpeur de briques alimentaires.
Les briques de lait ?
Tout ce qui est briques de lait, briques de jus de fruits, emballage de soupe. En fait, c'est le déchet ultime des papeteries.
Oui.
Une fois qu'elles ont enlevé le carton, qui va être recyclé lui-même, on a créé la technique pour transformer ce qu'on appelle donc le refus de pulpeur, pour le transformer en granulé. Et après, on va du granulé jusqu'au produit fini.
Quels sont les types de produits finis que l'on retrouve, justement ?
Alors, tout au départ, on s'est spécialisé dans les piquets de vigne, piquets de clôture, mobilier urbain, table de banc, table de pique-nique, poubelle, énormément de choses. Et depuis quelques années, on a très largement élargi la gamme des produits finis sur de la planche de terrasse, la planche de bardage, des lamelles d'occultation, du rouleau de bordure décorative. On fait plein de choses.
Très bien. Vous avez combien de salariés dans cette entreprise familiale co-dirigée par votre sœur jumelle et vous ?
Alors aujourd'hui, on est une petite équipe. On tourne entre 6 et 7 personnes et puis on a quelques commerciaux qui sont indépendants.
D'accord.
Qui commencent à travailler principalement pour nous. Et on distribue nos produits avec tout un réseau d'utilisateurs, en partie certains Big Mat. J'ai commencé avec Bricomarché aussi à Cône-sur-Loire. Et là, on étoffe un petit peu le réseau avec d'autres Big Mat. Et j'espère dans le futur d'autres enseignes.
Très bien. Alors moi, je vous ai découvert sur la foire exposition de Moulins qui s'est terminée ce week-end. Vous avez aussi donc une clientèle de particuliers que vous touchez directement ou uniquement par les revendeurs ?
Alors nous, on est... basé tout au départ sur un travail avec les collectivités.
D'abord les collectivités.
Et certains distributeurs, parce qu'il y a les Big Mat, les Bricomarché, mais il y a d'autres réseaux plus professionnels.
Mm-hmm.
Mais on touche le monde du particulier également en direct. Alors après, bon, je joue le jeu des distributeurs. Quand mes clients particuliers sont proches d'un distributeur, je les envoie directement là-bas. Il faut jouer le jeu.
D'accord.
Tout simplement.
Donc c'est lorsqu'il n'y a pas de distributeur qu'éventuellement vous pouvez intervenir en direct avec les particuliers.
C'est ça.
Ok. Au niveau des métiers, parce que c'est quand même... on parle des Big Mat, des Bricomarché, mais avant tout, c'est plutôt de l'industrie.
Alors notre métier, oui, il est industriel, pur et dur.
Oui.
Parce qu'on fabrique des produits finis.
Oui.
Qui vont être utilisés après dans plein de secteurs d'activité. Le monde du bâtiment, l'aménagement paysager, les viticoles, l'agricole, on touche à plein de secteurs. Mais c'est un monde industriel avant tout.
D'accord. Et sur les salariés et vous-même, vous me disiez tout à l'heure que vous étiez, vous, issu de la technique. On retrouve plutôt quel profil de métier ?
Alors moi, j'ai de tout.
Bon, moi, c'est varié.
Ouais, c'est très varié. Un cuistot avec moi, j'ai un autre qui est spécialisé dans les composites,
oui.
À l'origine qui était dans la fibre de verre. J'ai une personne aussi qui a travaillé pendant plus de 20 ans dans la grande distribution. C'est très très varié. J'ai un mécano également.
Alors, comment on passe de la cuisine à l'industrie ? Ça m'interpelle quand même. Vous formez, vous faites comment ?
Alors nous on forme sur
oui.
place. On a un contrat de formation d'abord à peu près de 2 ans.
Oui.
Pour la personne qui est prête à s'investir chez nous, on embauche au bout des 2 ans, on forme, et puis après c'est l'expérience.
D'accord.
Tout simplement.
Mais donc vous êtes ouvert à la formation de personnes qui viennent d'autres secteurs.
Complètement. Tout ce que je veux, c'est des gens courageux.
Des gens courageux. Et dans ces 2 ans de formation, on est sur de l'alternance. Comment vous fonctionnez ?
Non, on forme tout le monde en interne.
Tout tout le monde en interne, oui, d'accord. Oui. Vous avez les ressources en interne pour pouvoir faire la formation.
C'est ça.
Comment, donc, vous nous disiez que vous étiez prêt à former des personnes. Ces 2 ans de formation, ils se passent comment, du coup? C'est du contrat en alternance?
Alors, pas du tout. C'est tout simplement des contrats d'abord en CDD.
Oui.
Puis en CDI. L'objectif, en fait, c'est de former les gens directement à la matière, parce que c'est quand même une matière qui est assez difficile à intégrer au point de départ. Et on apprend surtout aux partenaires comment piloter les lignes.
D'accord.
Ensuite, il y a toute une partie, quand on voit que les personnes vont bien, et une bonne analyse des systèmes, il y a surtout tout un fait d'expérience à long terme qui fait réellement qu'ils deviennent efficaces.
C'est une montée en compétences progressive.
C'est une montée en compétences, c'est ça.
Très bien. Au niveau des lignes justement de production, vous avez quel type de machine?
Alors nous, il y a plusieurs techniques exploitées.
Oui.
Il y a tout d'abord de l'injection. Donc c'est des presses, ce qu'on appelle des presses à injecter avec des moules. Là, on fabrique des petites pièces. Elles sont en résultat, je dirais, vraiment jolies. Les autres techniques sont principalement basées sur de l'extrusion. Donc on a plusieurs systèmes. Extrusion en tirage continu, c'est ce qu'on utilise le plus. C'est-à-dire qu'on fabrique des profils à longueur et après on les coupe sur mesure. Donc évidemment on a nos standards, mais c'est de la fabrication en continu. Et ensuite on a un système d'extrusion par le biais d'un système de carrousel. C'est comme un barillet de pistolet, ni plus ni moins, sur lequel on vient mettre des moules de formes différentes.
D'accord. Donc, tout ceci vous permet d'avoir quand même une production en quantité importante?
C'est ça. On est fabricant, on sait faire du volume, et on a l'avantage surtout d'avoir du stock. Et on a quand même une unité qui est composée de pratiquement 12 lignes, parce que je suis en train de réhabiliter une autre unité pour une application un petit peu spécifique.
Ah, donc on n'en parle pas? Alors, pour nos auditeurs qui n'ont pas la vision, il y a le sourire et l'œil qui pétille parce que ça semble être quand même un projet plutôt passionnant, mais trop tôt pour en parler, c'est ça?
Trop tôt pour en parler.
Voilà, d'accord, ok. Au niveau de vos commerciaux indépendants, ils se répartissent comment? Ils ont chacun leur spécificité par rapport à la distribution? Je pense à des secteurs d'activité particulière où ils sont vraiment sur tout secteur?
Bah déjà, les 3 personnes concernées sont sur des secteurs complètement différents.
D'accord. Géographique peut-être?
Ouais, géographique, dans des secteurs d'activité différents.
D'accord. Donc j'avais vu juste.
Donc on est, en fait, c'est ni plus ni moins que ces personnes-là ont été rencontrées dans le cadre de certaines présentations, à la fois en réunion d'affaires, en club d'affaires, choses comme ça. Et ils ont été séduits par le produit. Et étant donné que c'est des commerciaux multicartes, l'idée, c'était d'intégrer mes produits en complément de ce qu'ils ont déjà.
D'accord. Très bien. Au niveau de votre équipe, elle est stable, vous recrutez?
Alors je recrute, oui.
Profitons de l'antenne.
Alors je recherche un technicien maintenance qui puisse me relayer dans l'atelier. L'objectif, c'est de trouver quelqu'un de courageux qui puisse être déjà en partie autonome.
Oui.
Sur la partie maintenance pure et dure, donc le dépannage des unités et puis les divers entretiens, mais aussi quelqu'un qui soit suffisamment ouvert à la fois techniquement et puis dans l'évolution des idées pour m'aider à faire évoluer l'outil.
D'accord, donc technicien de maintenance, mais aussi avec une vision sur l'évolution des outils.
Exactement.
Pour chercher le candidat idéal pour vous, il ressemblerait à quoi?
Je dirais une petite trentaine d'années.
Oui.
Un jeune qui en veut.
Oui.
Et qui est pas froid aux yeux.
Ok.
Parce qu'il y a un gros challenge à relever. Surtout, je suis quelqu'un d'assez exigeant.
Oui.
Je suis quelqu'un qui a touché à beaucoup de choses. Et puis, comme j'ai dit sur une interview précédente que j'ai déjà fait, j'ai pas de limite.
Oui, donc ça on avait compris sur la foire, effectivement.
Donc je m'en impose pas, et j'aime bien emmener les gens avec moi.
D'accord, du rêve, des projets, c'est ça?
Il y en a plein.
Bon, je vous propose que nous marquions une première pause musicale. Qu'est-ce que vous aimeriez écouter, Grégory Vernez?
My Everything, de Barry White.
Ah, ça c'est du Barry White. Très bien, on se retrouve dans quelques instants.
Les rendez-vous de l'économie du territoire. Retour dans un instant. Territoire. Mardi, 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire. Samedi, 13h. La suite.
Nous sommes de retour dans les rendez-vous de l'économie du territoire avec Grégory Verdès, qui est le co-gérant de la société Trédib basée à La Guerche-sur-le-Bois. Grégory, nous avons donc vu le fonctionnement de votre entreprise. J'aimerais que dans cette partie, nous abordions plutôt l'actualité. Alors, vous me parlez de lignes de production, vous me parlez de sites et de chaînes de production. J'ai envie de vous poser la question suivante. Comment se passe pour vous les augmentations des coûts de l'énergie ?
C'est monstrueux.
C'est monstrueux. Bon, bah voilà, ça c'est fait, c'est dit. Ouais. Concrètement.
Concrètement, ça se chiffre entre 400 et 600% de l'augmentation.
Ah oui, quand même.
Du coût énergétique initial. Malheureusement, ça se répercute obligatoirement sur les prix de vente.
Oui, parce que quand on a 600%, il faut pouvoir les amortir.
On ne peut pas tout absorber. C'est pas possible.
Et cette hausse de 600% sur vos coûts d'énergie, ça implique une répercussion de quel pourcentage sur vos prix à vous ?
À peu de choses près, 25%.
Quand même, oui.
Oui, ouais. C'est énorme.
Je suppose qu'une telle hausse, ça veut dire qu'à un moment donné, il a fallu peut-être réorganiser des choses parce que tous les clients ont dit OK ou pas ?
Alors, pas tous.
Oui, c'est ça.
On a pourtant travaillé vraiment de façon assez importante sur l'optimisation énergétique de l'outil.
Oui.
On est passé par un auditeur déjà pour savoir exactement quelle hausse il fallait impacter. Suite au travail de cet auditeur, on a plusieurs éléments à faire évoluer. On a commencé déjà à investir massivement pour baisser certaines consommations. Mais bon, c'est des investissements qui se jouent sur plusieurs années.
Bien sûr.
Donc, parce que c'est des programmes qui sont quand même assez longs. Surtout qu'on reste malgré tout une petite structure. Donc, je préfère donner un petit peu de sous à mes salariés qui vivent bien plutôt que de tout mettre vraiment à... On fait évoluer l'outil, évidemment, parce que c'est important de leur mettre des outils de qualité. Mais c'est pas évident. C'est très compliqué à gérer.
La partie de vos partenaires qui n'a pas pu faire avec cette hausse de prix, c'était les partenaires qui sont sur le territoire national ou c'était ceux à l'étranger ?
Alors principalement, c'est ceux qui sont à l'étranger.
Oui.
Parce que ça s'additionne aussi avec un coût de transport beaucoup plus élevé.
Bien sûr.
Donc ça se complique un petit peu. Donc forcément, étant donné que c'est des distributeurs, on joue le jeu, on a un tarif distributeur. Mais quand on fait l'addition de tout, bah, au bout du compte, il y a des moments où ça ne passe plus.
D'accord.
Par rapport aux concurrences étrangères sur des produits pas identiques, mais à fonctionnalité similaire, on est très souvent mis en concurrence avec l'étranger.
D'accord. Ok. Donc, cette difficulté toujours, toujours souvent que l'on retrouve avec la concurrence des fournisseurs aussi étrangers.
C'est ça. Et on a quand même aussi quelques partenaires en France qui ne peuvent plus, tout simplement, qui ne suivent pas. Hein. Donc, il y a des produits qui sont tout simplement achetés à l'étranger. Et puis, moi, sur lesquels je ne peux pas concurrencer du tout. Même en France, hein, de toute façon, entre les principaux distributeurs des gros partenaires qu'on avait depuis très, très longtemps, hein, on n'a pas eu le choix. On a arrêté certaines collaborations.
D'accord. Et alors, comment vous faites pour pallier à tout cela ?
On essaye justement de travailler un petit peu plus sur l'aspect communication,
oui.
Faire connaître davantage l'entreprise, les matériaux, je vous en remercie d'ailleurs. Depuis quelques années, pour pas dire pas tout à fait 3 ans, je me suis mis à faire les foires pour faire connaître le produit aux particuliers. Et il s'est avéré que ça m'a fait rencontrer certains distributeurs, en l'occurrence au Bricomarché de Cône-sur-Loire.
D'accord, sur une foire.
Que j'ai rencontré au Salon de l'Habitat à Nevers.
D'accord, bah oui. Hein. Donc, dans une période où certains se posent la question de savoir s'il est toujours intéressant d'aller présenter ses produits sur les foires, vous êtes l'exemple que ça permet aussi d'élargir le panel de distributeurs, de clientèle et de faire connaître un produit parce que c'est vrai que votre fabrication, elle est très particulière. On est plutôt dans une zone de niche, même si on est dans la partie environnementale et recyclage qui aujourd'hui est importante. Mine de rien, et vous avez aussi tout ce travail de communication pour faire connaître votre savoir-faire.
C'est ça. Alors, on est aujourd'hui sur les réseaux,
oui.
Un petit peu, on commence tout juste. Donc, on a notre page Facebook, on a notre site Internet. Et puis, je commence un petit peu à mettre sur LinkedIn pour... Enfin, plus à titre privé, mais sous le couvert de trading malgré tout. Et puis, c'est vrai que de la communication, on s'est vraiment rendu compte que c'était réellement important parce que notre produit, c'est un produit niche, alors que ça fait quand même 25 ans qu'on fait ça.
Mmh. Oui, mais c'est toujours un produit niche, dis ta bêtise.
Ça reste un produit niche, parce qu'aujourd'hui, le monde du particulier est prêt à l'écoute. Ils sont prêts à passer à une consommation différente.
Mmh.
Et puis en parallèle de ça, moi je fais beaucoup de sensibilisation, à la fois en termes d'école, même sur les foires d'ailleurs, j'explique beaucoup, je fais pas que vendre, j'explique également... l'intérêt du recyclage, l'intérêt de l'importance du geste de triage, parce que c'est ce que je dis à tous mes partenaires distributeurs, tous mes clients sur les stands, on est l'image finale du premier geste de triage que tout le monde fait.
Ou pas. C'est là qu'est le problème.
C'est ça.
Parce que quand on ne le fait pas, justement, ce geste de tri sélectif, qu'est-ce qui se passe ? Que deviennent ces briques de lait, ces emballages ?
Alors, pour faire simple, c'était enfoui, en décharge.
Enfoui, d'accord.
En décharge, hein, tout simplement. Aujourd'hui, ça commence à changer quand même. Que nous, on a quand même pignon sur rue sur la brique alimentaire. Mm-hmm. Parce que c'est quand même nous qui avons créé la technique pour y arriver. On a vraiment créé le chaînon manquant pour la recyclabilité à 100% du matériau. Et aujourd'hui, bah, d'autres sociétés en Europe commencent à traiter le matériau également sous des produits finis différents,
oui.
Avec une qualité de matière différente. Mais ça commence à vraiment changer.
D'accord. On voit bien effectivement une évolution dans les consommations, enfin dans les modes de consommation des particuliers, mais aussi des entreprises, hein, avec cette nécessité justement de revaloriser les produits qui ne sont plus utilisés, donc avec le recyclage. Comment vous voyez-vous l'avenir justement sur votre créneau en tout cas ?
Je le vois porteur.
Porteur ?
Parce que aujourd'hui, les gens sont vraiment à l'écoute.
Oui.
On le voit à l'échelle du particulier sur les foires, mais on le voit un petit peu dans tous les secteurs. Les entreprises également. Aujourd'hui, il y a une démarche RSE dans beaucoup de métiers. Et nous, on est très souvent la réponse face à ces démarches. Pendant la foire de Moulins, en l'occurrence, j'ai eu plein d'entreprises qui sont venues nous questionner, qui sont dans une démarche RSE. Et moi, en fait, de par les investissements qu'ils vont faire chez nous, on a vraiment cet impact environnemental qui est quantifié. Et c'est ça qui les sensibilise un petit peu. Donc à la fois, pour les entreprises qui veulent le faire, elles investissent pour le bien-être de leurs salariés, par exemple dans du mobilier,
oui.
Qui est mis à disposition des salariés, et ben, l'impact environnemental est généré et calculé, et on fait toujours le ratio par rapport au volume de pétrole brut économisé en extraction. Donc on arrive à aller assez loin dans le calcul de cet impact.
Oui, c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'au-delà d'une démarche environnementale de recyclage, vous pouvez accompagner vos clients qui sont des entreprises et je suppose des collectivités aussi, dans la quantification exacte de cet impact énergétique et c'est environnemental.
Ça. C'est ça. Pour vous donner une idée, un banc d'1,50 m, ça permet de recycler 18 080 briques alimentaires.
Une paille ?
Ouais, on va dire ça comme ça.
Oui, quand même.
1 kg de matière, 226 briques alimentaires.
D'accord.
Donc c'est quand même, c'est des petits chiffres comme ça, mais le tout ramené à grosse échelle,
évidemment,
c'est énorme.
Bon, merci en tout cas pour ces éléments de précision, Grégory Verdez, pardon. Je vous propose que nous marquions une seconde pause musicale. Qu'est-ce qu'on écoute cette fois-ci ?
Metallica. No Singles Matter.
Eh bien, c'est parti. À tout de suite.
Les rendez-vous de l'économie du territoire. Retour dans un instant. rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire. Samedi, 13h. La suite.
Nous sommes de retour pour cette dernière partie des rendez-vous de l'économie du territoire. Notre invité de ce jour, Grégory Verdez, qui est le co-gérant de la société Trédib, est avec nous. J'aimerais dans cette partie qu'on aborde cette fois-ci un peu plus votre parcours. Alors déjà, on en a parlé en début d'émission, vous êtes co-gérant avec votre sœur jumelle, qui s'appelle comment ?
Sandra.
Sandra. Donc des jumeaux jusqu'au bout.
Jusqu'au bout.
Ça a toujours été évident, ça ?
Non, pas forcément. Sandra nous a retrouvés dans l'entreprise en 2017.
D'accord.
Quand mon père a eu besoin de recruter, surtout sur la partie administrative, notre comptable partait à l'époque en retraite.
Oui.
Et c'est ma sœur qui a pris le flambeau, tout simplement.
D'accord.
Puis donc aujourd'hui, c'est elle qui gère toute la partie administrative principalement.
Oui.
Bon, évidemment, on prend les décisions de façon collégiale, on dirige tous les deux, mais on est vraiment pieds et mains liés à vocation pour l'entreprise, quoi.
Bien sûr. Travailler en famille, c'est quelque chose d'évident ou pas ? Parce que vous avez commencé avec vos parents.
Oui.
Maintenant, vous poursuivez avec votre sœur. C'était quelque chose de nécessaire pour vous ou ça s'est fait comme ça ?
Nécessaire, pas forcément.
D'accord.
Parce que du départ, mon père m'a dit clairement, tu tiens le choc, on va avancer ensemble, tu tiens pas, tu t'en vas.
Ah oui.
Oui, et c'est pas plus mal,
oui.
Ça endurcit.
Oui.
Ça endurcit, et puis après faut que chacun y mette du sien. Mm-hmm. Il y a eu des moments très compliqués. C'est le conflit père-fils, hein, comme je dis.
Le fils a voulu tuer le père ?
Non, du tout. Du tout, non, mais bon, c'est la bêtise de la jeunesse, comme par moments, comme pour tous les jeunes. Hein. Et puis, après, avec l'expérience, on avance gentiment, on apprend à connaître de mieux en mieux sa place. Et puis après, c'est les objectifs de vie, tout simplement.
Au départ, vous rêviez de faire quoi quand vous étiez petit ?
Oh là, chauffeur routier. Je rêvais de conduire des camions américains.
Ah oui, les gros camions américains. On n'a pas beaucoup sur nos routes. Hein.
Non.
Non. Puis côté RSE, c'est pas forcément...
Pas top.
On est d'accord.
C'est pas top.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé en grandissant ?
Alors en fait, moi, quand j'ai eu 14-15 ans, j'avais un de mes amis qui était déjà un petit peu, qui bidouillait un petit peu la partie électrique. Et on s'amusait à fabriquer nos jeux de lumière, on mettait ça en marche avec la musique, tout ça. Puis je le voyais bidouiller dans des fils. Et en fait, c'est à cause de lui.
C'est de sa
que
faute.
J'ai fait ce métier-là.
C'est de sa faute.
Je l'ai toujours dit d'ailleurs, j'ai dit c'est de ta faute. Mais c'est vrai, c'est marrant, mais c'est vrai. J'ai toujours vu bidouiller dans les circuits. Et puis, après, j'ai voulu faire pareil, j'ai voulu comprendre comment ça marchait. Et puis, étant petit, j'ai toujours été un petit peu brise-fer. Et puis, à démonter, à remonter, à modifier, machin. Donc, ça s'est suivi dans le métier, tout simplement.
D'accord. Et votre premier poste, c'était dans l'entreprise ou vous avez d'abord essayé d'aller travailler ailleurs ?
Alors, j'ai fait mon apprentissage à la Thomson à Nevers.
D'accord.
Anciennement Selny. Et je suis rentré du départ. Dès que j'ai fini mon alternance, je suis rentré avec mes parents.
D'accord.
C'était, pour moi, c'était déjà une évidence. Parce que mon père venait de créer Trédib sur ma dernière année de BTS. J'allais déjà le week-end bricoler un petit peu les machines avec lui, tout simplement. Parce que mon père n'était pas électricien du tout.
Oui.
Et puis, étant donné que je mettais quand même les mains là-dedans, c'était une évidence.
C'était une évidence. Et puis, le fait d'avoir vu votre papa créer l'entreprise, peut-être, vous êtes retrouvé tout de suite embarqué dans le projet.
Tout de suite, mais on l'a toujours été avec ma sœur d'une façon ou d'une autre. Et même avant la création de Trédib, mes parents avaient une fibre environnementale assez poussée.
Oui.
Et papa voulait vraiment créer des solutions qui permettent de travailler sur des masses de déchets importantes. Donc, il a eu un parcours très, très chaotique, en partie aussi dans le monde du déchet. Et puis, donc, on a toujours un petit peu baigné là-dedans. Mm-hmm. Et c'est là, quand il a créé Trédib, en fait, moi, j'ai voulu l'intégrer du départ.
D'accord.
Ça, pour moi, c'était vraiment une évidence. Je voulais travailler avec mes parents. Et puis après, bah, la suite se faisant gentiment, et ben, j'ai été formaté pour, sur la partie technique. On a évolué ensemble. Moi, je suis quelqu'un... Mon père était assez autodidacte, complètement même. Et en fait, je suis pareil.
D'accord, vous aimez découvrir, vous êtes curieux.
Ouais, je suis très très curieux, j'aime bien aller au fond des choses. Je suis quelqu'un d'assez passionné, je dirais. Très passionné même. Quand je prends quelque chose en main, je vais jusqu'au bout.
Très bien. Il y a une nouvelle génération pour assurer la relève ou pas?
Alors, ma sœur a un fils.
Oui.
Qui lui est en études sur Besançon.
Oui.
Montbéliard, pardon.
Et moi, pas j'ai. Tout à fait pareil.
C'est pas tout à fait pareil.
Ils vont se fâcher après.
Ils font du bon fromage quand même.
Oui, 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 oui.
Et moi, j'ai deux garçons, 20 ans et 16 ans.
Oui.
Le grand, il est pâtissier chocolatier.
Oui, donc a priori, ça va pas être forcément la reprise.
Non.
Encore que, vous m'avez bien dit, un cuisinier chez vous, donc on sait jamais.
Mais il a la même rigueur que moi au niveau du boulot, donc déjà, ça me.
Oui.
Ça fait plaisir.
Il y en a besoin aussi dans son domaine, hein, de la rigueur.
Ah oui, oui.
Et le second ?
Il faut être passionné. Et le second, eh ben, il a 16 ans, il est en apprentissage en plomberie. Mes deux fils sont en alternance. Oui. Je suis quelqu'un issu de l'alternance, avec un apprentissage de vrai métier manuel.
Oui.
Et j'ai voulu leur transmettre ça.
D'accord. L'intelligence de la main et l'apprentissage comme école.
C'est ça.
Très bien. Donc, a priori, pas sûr ? Pas sûr ?
Je sais pas encore. Mon petit.
Ah, le petit. Si vous, quand petit, il va vous
peut-être.
Entendre, parce qu'à 16 ans,
peut-être.
Nos enfants n'aiment pas qu'on les appelle petits. Hein. Je vous le dis tout de suite.
Ouais, surtout qu'il fait 1m85, il me dépasse déjà.
Donc, je pense que quand il va écouter l'émission, il va se dire ça va pas du tout.
Non, on a pu éviter, mon petit.
Bon. Donc, probablement une relève qui arrive, d'une manière ou d'une autre.
Je sais pas.
La vie se chargera de toute façon. Les chemins comme ça ne sont pas toujours très linéaires et on arrive parfois à des surprises.
Oui.
Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, de quoi vous rêvez pour l'avenir à titre personnel, mais aussi pour l'entreprise?
Alors déjà pour l'entreprise, parce que c'est vraiment notre passion, enfin la mienne tout du moins. Je voudrais arriver à faire connaître l'activité. Dans tous les secteurs de métiers confondus. Et puis faire vraiment connaître les produits, parce que c'est des choses intéressantes. Je dirais, il y a vraiment un impact environnemental important. Il y a une nécessité environnementale face à tous ces déchets qui sont générés aujourd'hui. Moi, je baigne dedans, donc cette sensibilité, je l'ai. Mais c'est pas le cas forcément de tout le monde.
Il y a besoin de faire de l'éducation ?
Complètement. Dans tous les sens du terme, et c'est pour ça que je travaille justement avec beaucoup d'écoles. En l'occurrence, il y a Jules Renard qui est sur Nevers. On est en train de créer un pôle de détente écologique.
D'accord.
Avec les lycéens, parce que je fais partie en même temps des gens qui participent au niveau des lycées de façon quand même assez active.
Mm-hmm.
Puis j'aime bien transmettre. Bizarrement, je me suis vu apprécier un petit peu le fait d'expliquer mon métier,
oui.
Expliquer la passion qui m'anime, je dirais, tous les jours. Donc ouais, c'est sympa. C'est sympa, il faut faire connaître les choses.
Faire connaître, faire comprendre cette nécessité de changer nos modes de fonctionnement aussi.
C'est ça. Mode de fonctionnement par la consommation.
Oui.
Essayer de faire un petit peu attention, ne serait-ce qu'à ce qu'on consomme en magasin, donc les produits sur-emballés, puis choisir des produits qui, quand on sait que l'emballage est recyclable et surtout recyclé, eh ben, on s'oriente plus sur ces produits-là qu'autre chose.
D'accord. Donc ça, c'est un message à faire passer.
C'est ça.
Merci d'avoir été l'invité de ce jour, Grégory Verdez. Je rappelle que vous êtes co-gérant de la société Trédib, qui est située à la Guerche-sur-le-Bois. Merci pour votre participation, ces explications.
Merci à vous.
Merci, merci à nos auditeurs et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.
Les rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire